Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour vous servir. État de siège et état d'urgence sécuritaire, quelle est la différence? On en parle dans cette émission avec Gracien Irachan, qui est député national élu de l'Ituri, qui est déjà en ligne. Honorable Gracien, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs.
Bienvenue dans cette émission. Nous allons également accueillir tout à l'heure l'honorable Juvenal Monobo, élu de Walikale au Nord Kivu, et Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, sera également de la partie dans cette émission pour comprendre la différence qu'il y a entre état de siège et état d'urgence sécuritaire. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la gestion des eaux souterraines. Quel est le mode de gestion efficace des eaux souterraines en RDC? Ce sera à partir de 11h05. Heure de Kinshasa, Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation. Dieudonné Nyangassa à la mise en onde au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Oh, Mario. Oh,
tout le monde, sai.
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission, mesdames et messieurs. Nous parlons aujourd'hui de l'état des sièges et état d'urgence sécuritaire. Quelle est la différence? Eh bien, en République démocratique du Congo, les députés nationaux et provinciaux du Nord Kivu proposent au gouvernement de transformer l'état des sièges en état d'urgence sécuritaire. 11 mois après la mise sous état des sièges de leur province, ces députés veulent voir les militaires au front pour combattre l'ennemi et que l'administration revienne aux civils. Ils plaident pour la mutualisation des forces entre militaires et civils pour mettre définitivement fin à l'insécurité dans cette province pendant cet état d'urgence. Alors, quelle est la différence entre l'état de siège et l'état d'urgence sécuritaire? Nous en parlons dans cette émission aujourd'hui. Nous avons déjà en ligne l'honorable Gracien Irachan. Il est député élu de l'Ituri, parce que l'Ituri est également concerné par cette situation. Honorable, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'après vous, quelle différence vous établissez entre un état de siège et un état d'urgence sécuritaire?
Oui, je commence d'abord par demander diligence aux auditeurs parce que je suis convalescent, mais tellement le sens, les choix du sujet étaient vraiment importants et je voulais vraiment participer. Alors, je vais vraiment être pédagogique pour que les gens comprennent ce que c'est l'état de siège, mais aussi l'état d'urgence. Parce qu'en fait, l'état de siège, c'est une disposition légale, je veux dire constitutionnelle, par laquelle l'État adopte, à travers une ordonnance présidentielle, un régime exceptionnel, mais surtout temporaire, pour faire face à toute situation grave qui touche la vie de la nation, comme de bandes armées qui touchent ou menacent l'intégrité d'un pays. Cela peut être aussi les groupes armés locaux comme étrangers, ou alors une insurrection armée. Ça peut être une évasion ou une occupation d'une portion du territoire par un pays étranger. Alors, le principal objectif de l'état de siège est le retour et le maintien de l'ordre public. Et vous savez, dans notre pays, la Constitution reconnaît au président de la République ses prérogatives-là de proclamation d'un état de siège pour 30 jours. Et dépasser ces délais, évidemment, les régimes exceptionnels tombent automatiquement à moins d'être prolongés par le Parlement de la République tous les 15 jours. Et c'est ce qui est en train d'être fait par l'Assemblée nationale, mais aussi par le gouvernement qui, à travers la loi d'habilitation, est habilité à le faire. Alors, sous d'autres sièges, l'état de siège est décrété à Conseil des ministres. Mais dans notre pays, comme je suis en train de parler de la RDC, le président consulte le gouvernement et le Parlement de la République et décide, suivant l'article 85 de la Constitution, il lance les messages à la nation et par après il fixe les différentes modalités à travers le Parlement, donc la Constitution, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mmh. Alors, il faut dire que l'état de siège est la plus haute stratégie politique et militaire à laquelle un État peut recourir, car elle a des conséquences sur la nation, notamment la restriction des libertés et droits, mais aussi, je peux dire, une des particularités est que le pouvoir civil est transmis aux militaires. Et en plus de cela, vous savez que les cours et tribunaux qui transfèrent leurs compétences à des juridictions militaires sont aussi conséquents. Et donc, l'état de siège, je veux dire, peut être décrété dans une partie comme dans toute l'étendue du territoire national. Alors maintenant, l'état d'urgence, c'est quoi? L'état d'urgence, quant à lui, ce sont des dispositions légales aussi par lesquelles un État anticipe par des mesures un péril imminent dans un pays. Pour cela, l'État peut utiliser des moyens qui peuvent porter entrave à certaines libertés fondamentales, comme la liberté de la circulation ou la liberté de la presse. Bien sûr, l'état d'urgence aussi est proclamé sur une partie ou alors sur l'étendue du territoire dans son entièreté. Alors, avec l'état d'urgence, les pouvoirs restent aux mains des civils, y compris les cours et tribunaux. Mais quand vous avez l'état de siège, le pouvoir est conféré et transmis aux militaires. Alors, il s'agit, parce qu'il faut aussi aller dans l'état d'urgence sanitaire comme sécuritaire, alors quand il s'agit d'une situation d'urgence concernant une épidémie, ça peut être une pandémie, ça peut être une crise sanitaire. On l'a vu en 2020 avec la crise Covid. À ce moment-là, on peut parler alors d'un état d'urgence sanitaire. Et là, l'État recourt à cette disposition juridique exceptionnelle pour y faire face. Et c'est la même chose pour l'état d'urgence sécuritaire où, quand le pays se retrouve face à des situations désastreuses en matière de sécurité, en matière de problèmes qui entravent les droits de l'homme, et donc l'État peut recourir à un état d'urgence sécuritaire pour pouvoir mettre fin.
Donc, bien, honorable Gracien, vous avez toujours déploré la durée de cet état de siège en Ituri particulièrement, alors que l'Ituri continue. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les députés de l'Ituri également sont d'avis qu'on passe de l'état de siège à l'état d'urgence sécuritaire?
Bon, vous voyez, la réalité est qu'on devrait suivre les textes. Et je voudrais vraiment souligner que toutes ces mesures que je viens de décrire, de citer ici, constituent l'exception. Ça veut dire que je vais dire en termes vulgaires, c'est un fonctionnement anormal des institutions. Parce que vous savez, avec l'état de siège, par exemple, vous avez les trois pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires qui sont en main des militaires, ce qui est anormal. Alors, moi, je voudrais dire ceci en répondant à votre question, que quand on recourt à un état d'exception, c'est qu'il y a une crise grave qui justifie cette prise de décision et les actions doivent être rapides et adaptées. Je souligne je souligne que les actions doivent être rapides et adaptées. Mais aussi, il faut un cadre légal fixant leur durée, prorogation, éventuelle et fait d'application. Donc, je voudrais dire qu'aujourd'hui, la situation que nous traversons à l'RDC n'est pas normale. Nous ne sommes plus face à un état de siège normal qui peut être conforme à notre constitution. Parce qu'il y a des conséquences. Quand vous êtes en train de proroger d'une façon illimitée ou abusive l'état de siège comme l'état d'urgence, l'état de siège a comme conséquence la restriction des libertés des citoyens et ça peut même porter entrave à des institutions. Donc il y aura paralysie des institutions. On le voit avec les assemblées provinciales, avec l'exécutif provincial civil et consorts. Et ce qui est grave, il faut le dire aussi, que les pouvoirs militaires illimités peut avoir des répercussions négatives sur la stabilité politique d'un pays. Vous savez qu'avec l'état de siège, quand c'est prolongé d'une façon illimitée, il y a des risques. On peut perdre le contrôle des trois pouvoirs, comme je le disais, mais aussi on est en train de former des chefs d'État en miniature et il ne faut pas qu'on s'étonne qu'il y ait par exemple balkanisation, qu'il y ait des coups d'État. Ce sont des risques qu'on peut avoir quand on prolonge d'une façon indéfinie l'état de siège. C'est pour cela que le législateur a parlé d'un mois et si jamais la mission n'est pas terminée dans un mois, on donne à l'Assemblée nationale la possibilité d'étudier et de pouvoir prolonger 15 jours chaque fois. Mais ça ne doit pas être d'une façon limitée. Donc, je vais conclure en disant que nous sommes d'accord que maintenant, normalement, il faut aller vers l'état d'urgence, mais aussi, on n'élève pas l'état de siège brutalement. Il faut qu'on soit sûr que les menaces qui pesaient, est-ce que ces menaces ont été éradiquées, oui ou non? Ce sont des questions fondamentales. Mais quand je reviens sur l'évaluation de l'état de siège que nous avons faite au niveau de l'Assemblée nationale, cette évaluation a montré que tous les indicateurs que nous avons pu passer en revue ont démontré que l'état de siège ne pouvait pas aboutir positivement, tout simplement parce que le pays ne remplit pas certaines conditions pour pouvoir mener tel genre d'opération. Et donc, il faut revoir tous les processus.
Bien, merci honorable Gratien Irachan. Nous avons dans ce studio Maître Rufin Loukoumoussoubao. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous nos auditeurs.
Vous êtes juriste, chercheur en droit et écrivain. Nous parlons aujourd'hui de l'état des sièges et l'état d'urgence sécuritaire. Comment la loi définit ces concepts?
Bon, d'abord, il faut rappeler que cet état de siège tel qu'il a été prononcé ou décrété l'année passée, eh bien, il n'a pas été préparé. Des experts n'ont pas été unis pour apprêter l'état de siège. J'ai vu de l'Itourie il y a quelques mois, vous vous rappelez, j'avais été invité là-bas pour animer les séminaires et des conférences sur l'état de siège et nous avons réuni toutes les autorités judiciaires et militaires de la ville ou de la province à Bounia pour tabler, n'est-ce pas, de cette question-là. Nous étions ensemble pour discuter quels sont les droits qui sont suspendus, quels sont ceux qui n'ont pas été touchés et comment se comporter pendant l'état de siège. Nous avions donc remarqué que l'état de siège n'a pas été bien préparé. Encore une fois, vous vous rappelez, j'ai dénoncé ça ici sur ces antennes et j'avais même fait une note technique. Et heureusement, on a corrigé. On a transféré les attributions du pouvoir judiciaire civil au pouvoir judiciaire militaire, alors que la province de l'Ituri n'avait pas une cour militaire à l'époque. Donc la décision du décret présidentiel qui ordonnait l'état de siège et transférait, ou décrétait l'état de siège, transférait les pouvoirs, donc les attributions civil, du pouvoir judiciaire civil au pouvoir judiciaire militaire, alors que l'Ituri n'avait pas de cour militaire. Et donc, ça veut dire, les experts n'ont pas été consultés. Il fallait d'autres ordonnances ou une autre ordonnance pour corriger cela. Alors, en ce qui concerne notamment cet état de siège, il faut rappeler à notre population qu'à l'est du pays, le Kivu et l'Ituri fait face à deux états de siège. Deux. Il n'y en a pas qu'un seul. Il y a le premier état de siège, c'est celui de notre armée qui a été autorisé à remplacer les autorités civiles, notre armée, notre police. Et l'autre état de siège, c'est la présence d'une armée étrangère à l'est du pays. C'est le second état de siège et celui-là n'est pas réglementé. Nous ne savons pas les délais.
L'armée ougandaise.
Ougandaise sur le territoire du Nord Kivu et de l'Ituri, sans savoir quelles sont les modalités de la coopération, sans savoir quand est-ce que ça va prendre effet. Et le constat malheureux, c'est que les deux états de siège, parce que d'abord, avant de superposer un second état de siège sur un premier, il fallait d'abord évaluer le premier s'il n'a pas, parce qu'il fallait évaluer ou le dissoudre. C'est-à-dire dissoudre le premier pour qu'on revienne à une situation normale et que maintenant notre armée soit associée à une armée étrangère pour, n'est-ce pas, affronter les ADF et les autres, les CODECO, tout ça. Mais le constat principal, d'abord, le premier constat, c'est que tout le territoire de l'Ituri n'était pas en état de dirigeance. Encore moins le territoire du Nord-Kivu, vous voyez.
Alors en état de siège, vous voulez dire?
L'état de siège. Donc, non, d'abord en état de dirigeance. Pour qu'on décrète l'état de siège.
Ah, il faut commencer. Quel est le cadre légal qui gère tout ça?
C'est la Constitution. La Constitution le prévoit que lorsque les institutions de la République ou une partie du territoire national est exposée à une rupture totale ou dysfonctionnement total, soit par la présence des troupes étrangères à terme d'agression, soit par la présence des rébellions qui avancent d'une ville à une autre ou d'une cité à une autre, de telle sorte qu'il y a une menace grave sur l'intégrité du territoire ou les institutions, le pouvoir central peut ordonner qu'une partie de ces territoires-là puisse être contrôlée par l'armée, notre armée nationale, pour remettre là. Et ça, ce qui a été fait ici en 2021, eh bien, nous avons fait une hiérarchie, nous avons fait l'historique. Depuis 62, 64, 67. Ensuite, il y a eu Moba 1, Moba 2, Chaba 1, Chaba 2. Il y a eu Kikwit, à l'époque de Pierre Moulel. Toutes ces rébellions-là, il y a eu des différentes situations exceptionnelles où le pouvoir central a décrété l'état d'urgence ou l'état de siège. J'avais répertorié l'ensemble, donc ça, c'est pas une première. Pas une première. Donc, celle qui a été proclamée, donc la situation d'urgence qui a été proclamée à l'est du pays par un état de siège n'est pas une première à notre pays. Nous avions rappelé dans des conférences à l'intention de tout le monde que non, ce n'est pas une première. Et pourquoi les autres, toutes les situations d'urgence où on a envoyé notre armée ont réussi à rétablir la paix? Pourquoi celle-ci doit échouer? Parce qu'elle n'a pas été bien préparée. Nous, j'étais à Ituri, j'étais à Goma, nous avons remarqué que 80% des occupations de ces autorités militaires, ils sont dans les civils, ils sont dans les fonciers, ils sont dans les mines, ils sont... Non, 80%
dans
de
la gestion des problèmes civils. Oui. Les conflits coutumiers, etc.
Les conflits coutumiers contiennent les conflits fonciers. Donc, au lieu d'avoir, comme l'ordonnance et le décret présidentiel le précisent, qui leur première attribution, leur première urgence, c'est le commandement des opérations. Donc, on ne devait pas les voir dans des bureaux. En tout cas, ils ne sont pas partis à l'est du pays pour être des bureaucrates. Nous les voyons dans les bureaux en permanence, ils reçoivent. Bon, Tobo Ite Bayambaba, tout. Mais c'est pas leur... Donc, en fait, ça échoue parce qu'on les a surchargés avec des attributions civiles. Qui font carrément des fonctionnaires comme si l'état d'urgence... Donc, c'est exceptionnellement qu'on les voit au front. C'est exceptionnellement qu'on les voit sur le terrain des opérations. Exceptionnellement. Nous ne demandons pas qu'ils aillent avec caméra dans toutes les opérations, mais on sait quand est-ce qu'ils vont dans les opérations, on les voit exceptionnellement.
Exceptionnellement.
Ce qui fait que leur présence n'intimide personne. Vous apprenez qu'il y a Tianzhu aujourd'hui qui est menacé et qu'on sort. Les hostilités ont commencé là-bas alors qu'il y a état de siège. Donc, en principe, notre armée ne peut pas être surpris comme ça et que la réaction doit être totale et foudroyante pour prouver que là, il n'y a plus seulement une région militaire, il y a l'armée qui est en état de siège, c'est-à-dire qui commande tout et qu'on doit sentir rigoureusement une réplique, une réaction foudroyante pour que cette rébellion-là ne continue plus à se moquer de notre pays parce que elle avait déjà été défaite, elle ne peut pas s'autoriser à reprendre les hostilités alors qu'elle avait signé qu'elle ne reviendra plus jamais aux hostilités armées. Mais nous savons que cette rébellion-là qui reprend, c'est parce que tout simplement l'Ouganda a décidé de commencer les travaux de la réhabilitation ou de l'asphaltage de la route qui sort jusqu'à Goma, et bien cette route-là est d'une utilité vitale pour la province du Kivu et de l'Ituri. On veut arrêter parce que cette route-là empêche que le trafic ne passe plus par le Rwanda et qu'on s'est bâti depuis que le projet a commencé pour que le Rwanda, l'Ouganda et la RDC puissent mutualiser les forces. On veut empêcher pour que ce projet-là ne puisse pas aboutir. Donc nous savons l'agenda et c'est pourquoi donc notre armée doit réagir rigoureusement en attendant que les auditeurs réagissent également.
On va accueillir Bindu Maumbi depuis Kinshasa. Bonjour Bindu. Allô, nous avons en ligne Bindu Maumbi. Généralement, il intervient depuis le Nord Kivu, mais là, on me dit qu'il est à Kinshasa. Bon, il n'y répond pas. Honorable Irachan, à ce jour... est-ce que faut-il évaluer l'état des sièges ou il faut directement passer à l'état d'urgence sécuritaire tel que recommandé?
Bon, je ne suis pas d'abord d'accord avec notre co-débatteur qui est là à parler des deux états des sièges En fait, il y a un seul état de siège, c'est connu, avec de sous-bassements juridiques. Il y a un seul état de siège. Mais je voudrais aussi qu'on ne confonde pas l'état de siège avec la mutualisation des forces. Quand nous avons fait l'évaluation de l'état de siège, des 3 mois d'état de siège avec la commission défense et sécurité, on a trouvé qu'on avait certaines défaillances et aussi il y a des forces négatives qui sont de part et d'autre des pays régionaux. Et donc on a trouvé que c'était important qu'il y ait mutualisation des forces. Et c'est dans ce cadre-là on a réfléchi et on a trouvé que les pays qui étaient très proches pouvaient être l'Ouganda, tout simplement parce qu'il y a ces ADF qui sont normalement d'origine ougandaise et qui sont maintenant influents au nord Kivu comme en Ituri. Et c'est comme ça qu'on a fait appel à l'Ouganda. Mais il faut aussi souligner que même si l'Ouganda est entré en RDC, on n'a pas vu les clauses de ces accords-là. Et ça nous inquiète en tant que parlementaires, parce qu'on doit avoir quand même un accord où on sait, par exemple, ils vont intervenir sur quelle étendue de territoire, quelle surface précisément, parce que ça doit être délimité dans les temps et dans l'espace. Mais on n'a pas un accord. On ne sait pas quelle sera la contrepartie par rapport à tout ce qui s'est fait. Donc ce sont des défaillances que nous avons vues. Mais aussi, je tiens aussi à dire que, par exemple, c'est la première fois que la RDC applique l'état de siège, à moins que je me trompe, mais c'est la première fois depuis que nous avons accédé au système démocratique. Et il faut aussi dire aussi que on n'a pas vu une loi, et ça nous avons répété plusieurs fois à l'Assemblée nationale, il n'y a pas une loi portant modalité d'application de l'état de siège. C'est en fait l'article 85 alinéa 3. Donc on ne peut pas avoir une disposition appliquée par la loi, pas par l'État, mais qui est en train d'aller sans encadrement. Et c'est pour cela qu'on observe des dérapages, comme le dit le collègue qui est là. Donc, et je voulais aussi dire que si nous avons évalué l'état de siège, parce qu'on ne peut pas passer à une deuxième évaluation sans pour autant appliquer les recommandations et résolutions de la première évaluation. Et c'est ça mon cheval de bataille, chaque fois je suis en train de rappeler à l'Assemblée nationale et au gouvernement, on doit appliquer ces résolutions et recommandations. Et ces résolutions et recommandations ont démontré que la RDC a certaines faiblesses, et cela c'est par rapport aux difficultés qui sont d'ordre général que nous sommes en train de connaître dans les pays. Donc il ne suffit pas seulement de condamner les FARDC, mais il y a plusieurs autres secteurs qui sont touchés par cette insécurité, par ces dispositions qui ne fonctionnent pas. Nous avons des militaires qui sont très vaillants, très courageux, mais il y a des limites, parce qu'il faut aller voir les secteurs sécuritaires où il y a les renseignements militaires, où il y a la force de la police, où vous êtes au front, où l'armée se bat, mais qui n'est pas relayé par la force de la police, vous êtes au front où on a des problèmes. Donc il y a tellement de problèmes qu'il ne faut pas aller maintenant à une deuxième évaluation, mais il faut maintenant étudier. Et les rapports d'évaluation de l'état de siège donnent toutes les pistes pour qu'on puisse au moins stabiliser nos forces de sécurité et aller vers l'état d'urgence. Et c'est pour cela que nous avons dit, même dans nos recommandations, qu'on devait recadrer les interventions militaires, on devait les cibler là où il y a forte insécurité, tout laissant les autres zones libres sous contrôle des civils.
D'accord. Maître Rifin Loukou.
Oui, mais bon, honorable, bon, je ne sais pas quelle est votre sensibilité politique. D'abord, je vais rappeler que c'est pas vrai, honorable, que c'est la première proclamation d'état de siège. J'ai parlé depuis 62. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu plus de 2, 3, 4, 5 états exceptionnels sur l'étendue du territoire national où, à plusieurs reprises, le pouvoir central a décrété ou l'état de siège ou l'état d'urgence dans telle zone. Et notre armée, depuis 62, a si ramené la paix là-bas. Donc, nous avons des documents, nous avons l'histoire de notre pays. Donc, ce n'est pas la première fois.
Non, et puis,
lorsque je parle de deux états de siège, je parle d'état de siège de fait, celui de l'armée, notre armée, qui est en état de siège là-bas, et l'armée étrangère. Et lorsque vous dites que ça n'a pas été programmé, il n'y a pas de documents, nos honorables, on n'a pas vu. Vous avez raison, c'est pourquoi nous parlons de deux états de siège. L'Ouganda a été condamné.
Peut-être la présence de l'Ouganda est une situation exceptionnelle.
C'est une situation
sur demande des honorables
députés. C'est ça le scandale, parce que l'Ouganda a été condamné pour son agression de notre pays. À nous payer plus de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, le montant a été revu à la baisse, notamment parce que nous les avons cette fois-ci appelés officiellement. Mais le cas de dire que non, nous faisons face à la même urgence, à la même situation de sécurité, c'est pas vrai. Les ADF ont fait plus de 30 ans chez nous. Babouakata, Libanga, Mokote, Panabango.
Donc, ils n'ont jamais sécurisé leur pays. La mascarade qu'il y a eu lieu ici, qu'il y a eu des attentats à Kampala pour justifier leur arrivée, nous, il y a beaucoup de sources de sécurité qui considèrent que c'était un montage.
D'accord,
je alors, pour dire tout simplement que non. Oui. La raison de justifier officiellement l'arrivée des troupes ougandaises au Congo en plus de l'état de siège, on devrait d'abord évaluer si nos militaires sont incapables de remettre la paix définitivement. Alors, on lève l'option devant le Parlement pour inviter une armée étrangère. Alors non, les deux états de siège, c'est ce qui vient. Non, au pire, on vient ajouter ce qui est compliqué.
Bien, pour je reviens à vous, maître, le temps d'accueillir l'honorable Juvenal Munobo, qui est président de la synergie Urgence Goma en ligne, élu de Walikale. Honorable Munobo, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de Parole aux auditeurs.
D'Okapi Service. Alors, dernièrement, les députés nationaux et provinciaux du Nord Kivu ont proposé au gouvernement de transformer l'état des sièges en état d'urgence. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a motivé cette démarche?
En tout cas, je n'en sais pas trop, parce que pour moi, je ne crois pas que transformer l'état de siège en état d'urgence, je ne crois pas que ça soit ça la solution. La solution, c'est appliquer les recommandations de la Commission de défense et sécurité, parce que je rappelle ici que la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée a mené une évaluation sans complaisance de l'état de siège. Hein, les ministres de la Défense, les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Justice, ministres de Budget, ministres de Finances, tous ces ministres ont défilé devant la Commission de défense. Des questions pertinentes leur ont été posées. Comment se fait-il que la guerre continue à l'Est? Qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui n'est pas encore fait pour mettre fin à l'insécurité? Donc toutes ces questions ont été posées, les réponses ont été fournies et des recommandations ont été formulées et un rapport a été rédigé. Et donc c'est question d'appliquer tout simplement ces rapports-là. Donc moi je ne pense pas que la solution soit celle de dire qu'il faut mettre fin directement à l'état de siège, ou je ne crois pas que la solution soit celle de transformer l'état de siège en état d'urgence. La solution, c'est d'appliquer cette recommandation. Même si on passait à l'état d'urgence, eh bien, il n'y a rien qui changerait fondamentalement. Donc, il faut arriver à s'attaquer aux racines du problème.
Honorable, pouvez-vous nous rappeler l'essentiel de ces recommandations?
Alors, parmi ces recommandations, il y a le changement de la chaîne de commandement. Il y a la lutte contre l'impunité au sein des FARDC, c'est-à-dire il faut sanctionner les officiers qui se mettent en marge de la mission qui est la leur. Il faut donner plus de moyens aux militaires et aux policiers. Il faut donner des moyens donc aux militaires qui ne manquent pas à manger et qui ne manquent pas des équipements pour bien faire leur travail. Il faut améliorer les relations entre les civils et les militaires. Donc c'est entre autres, donc je n'ai pas toutes les recommandations d'emblée comme ça dans la tête, mais c'est entre autres recommandations phares.
Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, quand on parle de l'état de siège et état d'urgence, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelle est la différence entre les deux concepts?
Il faut savoir que l'état de siège, tout comme l'état d'urgence, tout comme la guerre, c'est des situations exceptionnelles. Parce que dans la gestion sécuritaire d'un état, il y a la gestion normale, c'est-à-dire dans un état où il n'y a pas la guerre, il n'y a pas des situations qui peuvent conduire à un état de siège ou à un état d'urgence. Ça, c'est la situation normale, de la gestion normale sur le plan sécuritaire d'un État. Alors, il existe aussi des situations particulières où le gouvernement est appelé à solliciter à l'Assemblée nationale soit la déclaration d'un État d'urgence, soit la déclaration d'un État de siège. La différence entre l'État d'urgence et l'État de siège, c'est que pour l'État de siège, les pouvoirs des militaires sont renforcés. Et on a vu là, il y a même des administrateurs militaires qui sont nommés, les gouverneurs militaires qui est nommé. Les juridictions militaires qui ont plus de pouvoir maintenant là que les juridictions civiles, c'est ça la différence. Mais tout dépend en fait de la gravité de la situation, parce que l'état d'urgence, c'est souvent lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, hein, ça peut être l'éruption volcanique, ça peut être une sécheresse, et suivant toujours la gravité, donc on peut avoir l'état d'urgence. Si la situation semble beaucoup plus préoccupante, l'état de siège, ou alors la guerre, lorsqu'on identifie qu'on a été victime d'une agression d'un pays voisin ou une nation étrangère. À ce moment-là, après autorisation de l'Assemblée nationale, le président de la République peut déclarer la guerre.
Voilà, et par rapport à la prolongation de l'état de siège, c'est prévu qu'on peut prolonger jusqu'à combien de fois?
Autant de fois. La durée, autant de fois. autant de fois. Donc il y a une première durée qui est d'un mois, et puis après il y a des prolongations successives, je crois 15 jours après. Donc autant de fois. Donc il devait pas, les débats, ça ne devait pas être à ce niveau là. Les débats, c'est par rapport à la situation sécuritaire. Pourquoi ça ne s'améliore pas depuis qu'on est dans cette situation de l'état de siège? Alors il y a des politiciens qui estiment que si on met fin à l'état de siège aujourd'hui, la peur revienne. Il y a ceux qui pensent que non, il faut que les autorités civiles reviennent pour que la paix arrive. Mais moi, je pense que pour que la paix revienne, il faut qu'on applique ces recommandations-là de la commission de défense. Et en politique, je crois qu'il faut dire la vérité à la population. Il y a des politiciens qui disent que pour que la paix revienne, il faut distribuer des armes aux civils. Là aussi, je crois que c'est une imprudence. Parce que vous ne pouvez pas donner des armes à des personnes qui n'ont pas étudié les maniements des armes. Et donc, ça risque d'être une
sorte de... De créer la confusion.
De créer la confusion. Et donc, comme leader, nous devons donner des bonnes solutions. Et nous ne devons pas être ceux-là qui ont tendance à instrumentaliser la population. Certes, la situation est préoccupante. Ce sont nos frères qui meurent là-bas. Même si je ne suis pas un élu de Beni ou de Lubero, je suis de Walikale, je suis touché par ce qui se passe. Et je vois aussi certains collègues, ils peuvent être de Kinshasa ou du Congo central ou de l'Équateur, qui sont touchés par ce qui se passe. Alors la solution, c'est d'appliquer cette recommandation-là. Donc les solutions ne manquent pas, des propositions, des solutions ne manquent pas. Mais ce qui manque, c'est cet engagement fort de la part du gouvernement à appliquer cette recommandation et à en faire le suivi. Et je suis sûr qu'au cours de cette session parlementaire de mars qui commence, eh bien nous ne serons pas du tout complaisants par rapport à cette question-là. Imaginez qu'on arrive aux élections avec cette situation ici d'insécurité et tout ça. Je crois que même les discours vont manquer. Des discours pour une réélection. Et donc, alors, qu'il y ait élection ou pas, nous souhaitons, et ça c'est une exigence d'ailleurs constitutionnelle, qu'il y ait des élections et il y ait dans le délai, il faut qu'il y ait la paix. Les populations doivent vivre en paix. Et cela ne se négocie pas la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la sécurité, sans lesquelles il n'y a pas épanouissement, il n'y a pas de vie.
Bien, honorable Juvénal Munobo, élu de Walikale au Nord Kivu, merci, excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup et salut à tous les auditeurs des Okapi Service.
Bien, on va accueillir Gaston de Kinshasa, bonjour. Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, jeudi.
On vous écoute.
Bon, j'aimerais un peu m'adresser à Maître Rifin.
Oui.
Parce que si je l'ai bien compris, il est en train de dire que l'état d'urgence devrait précéder l'état de siège dans la contrée. Moi, je pense vraiment, à mon avis, que ce n'est pas prévu comme ça, qu'à chaque fois qu'on déclare un état d'urgence, ou prenons même un état de guerre, il faut que l'état d'urgence précède l'état guerre.
Apparemment, vous m'avez mal entendu. Apparemment,
non,
c'est
non,
pas ce que j'ai dit.
Écoutez un peu, si je vous ai mal entendu, vous allez.
Il va corriger. Allez... Ok, allez-y.
Voilà. Parce que, bon, de toute manière, j'allais dire ceci. Moi, j'imagine qu'il y a une situation exceptionnelle. La Constitution n'est même pas claire là-dessus. Une situation qui menace gravement la vie d'une nation. Le président peut décréter. Un état de siège, un état d'urgence de siège ou d'état de guerre selon les cas. Et dans les cas d'espèce, il y a l'état de siège qui a été déclaré dans la contrée. Et les contenus même de l'état de siège, si je comprends bien selon la loi, c'est après avoir déclaré l'état de siège, le Parlement devrait voter une loi prévoyant les mécanismes d'application, soit les mesures d'application, c'est ce qui n'a pas été fait dans notre pays. Le président a décrété l'état de siège et c'est la présidence qui prévoit même ce mécanisme. Je ne sais pas comprendre aujourd'hui qui n'apporte pas la solution à la situation qu'on qualifie de sécuritaire dans le cas d'espèce. Et je pense que l'état d'urgence a été déclaré avant cela sur toute l'étendue concernant la maladie à coronavirus. Et toutes les contrées étaient contrées. Mais ici, j'aimerais aussi que nos invités puissent un peu nous expliquer parce que la différence entre... Moi, je sais que la loi parle de l'état d'urgence. Parce qu'on dit... Il y a
ici, on parle de l'état d'urgence sécuritaire.
Oui, oui, voilà. Les ajouts là, qu'ils ajoutent là, les termes qu'ils ajoutent là, sécuritaire, sanitaire, ce sont des termes qui n'existent pas juridiquement. Vous comprenez?
D'accord, merci. Maître Ruffin va répondre à vos préoccupations. Merci d'avoir appelé Gaston. Maître Ruffin, vous avez la parole.
Merci Gaston pour votre intervention. Donc d'abord, pour les techniciens, l'État, il y en a trois. Il y a l'État d'exception, l'État d'urgence et l'État de siège. Tous ces autres trois États-là, c'est le pouvoir central qui décide, selon cette situation-là, pour y répondre, s'agit-il de la nécessité de proclamer un état d'urgence ou un état de siège ou un... Mais dans l'ensemble, le troisième, l'état de siège, nécessite le transfert de tout le pouvoir des autorités civiles aux autorités militaires.
Et l'état d'urgence sécuritaire?
Alors que l'état d'urgence sécuritaire, c'est nuancé parce qu'il a raison, Mathieu a raison de dire que ce n'est pas l'état d'urgence sécuritaire. C'est une redondance qui n'est pas prévue par le texte, parce que le texte parle d'état d'urgence.
D'urgence tout court.
Tout court. Okay. Donc, ce que les députés ont ajouté, c'est vouloir donner une nuance politique pour dire que non. Plus ou moins, je crois que dans les revendications telles que je les lis, c'est le retour aux attributions de, parce qu'il y a les députés provinciaux qui galèrent maintenant. Les députés provinciaux sont tellement à galère qu'ils crient à tous ceux qui veulent attendre. Ils étaient réunis tous ici.
Pourquoi ils galèrent? Donc il n'y a plus de boulot.
Il n'y a plus de boulot, il n'y a plus d'émotion. Comme on dit, il n'y a plus d'émotion.
D'émotion alimentaire.
Il n'y a plus rien. Parce que nous déplorons, il faut qu'on les rappelle. Nous avions dénoncé, nous avions stigmatisé le fait qu'on veut décentraliser et nous donner des autorités parlementaires provinciales. En l'idée, c'est génial. Mais dans la pratique, nous savions que ça va dégénérer en corruption. Et hélas.
Donc, si je comprends bien, l'état d'urgence sécuritaire, c'est-à-dire qu'on remet le pouvoir qui était confié aux militaires, aux civils.
Ils ont raison sur un aspect. Parce que le fait qu'on a transposé tout le pouvoir des civils aux autorités militaires, ça les encombre. Ils se retrouvent maintenant submergé par les sollicitations des civils qui n'ont plus l'État pour commander les opérations. Le gouverneur de Litoure, le gouverneur de Nord Kivu, les deux officiers généraux sont submergés par les revendications.
Les problèmes des civils. Les conflits coutumiers.
Ils sont tout le temps dans les conflits coutumiers et dans les conflits fonciers. En principe, on devrait les en éloigner dans la préparation de la proclamation de l'état de siège. Ça veut dire, leurs attributions auraient pu être essentiellement, et c'est là que lorsque l'honorable Mounoubo parlait des recommandations, je voulais ajouter qu'il fallait délimiter les régions dans la province. Ça veut dire, il y avait des endroits ciblés, comme Beni territoire. Beni territoire entièrement devait, celui-là était concerné directement. Beni ville également, mais pas par exemple, Butembo n'était pas concerné par, Butembo ville n'était pas concerné. Une partie par exemple du territoire de Lubero aussi, une partie du territoire de Rutshuru également, mais pas tout le territoire.
L'honorable Irachan nous a dit tout à l'heure qu'il fallait définir les modalités d'encadrement de ces...
Pas seulement d'encadrement, mais d'abord dans la déclaration elle-même, ça ne devait pas concerner toute la province de Litouri et toute la province de Nord-Kivu. Par exemple, si, comme on avait la tendance il y a quelques mois, on voulait également prolonger à la province de Sud-Kivu. Tous les Sud-Kivu n'étaient pas concernés. Tous les Sud-Kivu, on pourrait, si par exemple, on prolonge vers le Sud-Kivu, il n'y avait que le plateau d'Itombwe qui était concerné. On ne pouvait pas proclamer la ville de Bukavu en état de siège, alors que Bukavu n'était pas ni de près ni de loin concerné par cette
sécurité. Donc ça doit être délimité.
Ça devait être localisé. Ça veut dire une délimitation
dans les temps et dans l'espace.
Dans les temps et dans l'espèce. Maintenant tout ça. Bon, maintenant par exemple, ce que j'appelle deuxième état de siège, de la présence d'une armée étrangère, c'est pour combien de temps? C'est pour combien de mois? Rappelez-vous que la province qu'on appelle la province Nord Kivu, la partie Grand Nord, n'a pas élu en 2018. Il y a une manœuvre politique à Kinshasa qui a décidé que cette partie-là ne puisse pas élire le président de la République. Est-ce que la même manœuvre, comme les mêmes causes qu'on a mêmes effets, ce n'est pas la même volonté politique diabolique qui veut que la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri ne puissent pas être qualifiées à pouvoir, n'est-ce pas, participer aux élections 2023? Ou bien justifier de cet état de siège qui ne donne toujours pas les résultats que les élections n'auront pas lieu au pays parce qu'il y a un état de siège. Donc ça veut dire, démocratiquement, il faut que nous veillons, et nous sommes la population, nous veillons. Donc nous veillons pour que tout ça ne soit pas des prétextes pour que les libertés individuelles, les libertés constitutionnelles de la population, notamment de l'Est du pays, puissent être caporalisées, prises en otage, parce que tout simplement les politiciens veulent trouver un prétexte pour n'est pas, n'est-ce pas, organiser soit des élections ou retourner les libertés de la population des voies et vies, n'est-ce pas, en ce qui concerne les affaires, en ce qui concerne les études, en ce qui concerne tout ce qui est liberté individuelle de la population de l'Ituri.
Honorable Irachan, vous êtes encore en ligne?
Oui, je suis là.
Oui, oui. Est-ce que on peut dire que si aujourd'hui les députés veulent qu'on passe à l'état d'urgence, c'est parce que sécuritaire, c'est parce que les députés provinciaux et les autres non plus ne travaillent plus, ne sont au chômage depuis un moment, et qu'on devait aussi leur donner la possibilité de travailler?
Bon, je voudrais d'abord rappeler encore à notre co-débatteur que moi je parlais de l'accession à la démocratie de notre constitution là, à partir de 2006, c'est la première fois qu'il y a l'état de siège à l'RDC, et ça je le confirme, mais il y a aussi des zones opérationnelles, là on l'a vu avec Yumbi où il y avait des zones opérationnelles, on l'a vu avec le Nord Kivu avec MV3, on l'a vu avec les Enyele vers l'Équateur, avec les Kamuina Sampo au Kassai, il y avait des zones opérationnelles qui ont donné des résultats. Alors, c'est important aussi que je puisse rappeler encore, en ajoutant aussi les recommandations et résolutions qu'honorable Juvenal Mounou venait de décrire, qu'il y avait effectivement ce que l'éco-débatteur vient de dire ici, il y avait aussi une recommandation pour requalifier l'état de siège. Et je venais de le dire qu'on devait focaliser les efforts dans les zones où il y avait l'insécurité. Toutes ces recommandations n'ont jamais été appliquées. Et même j'ai écrit au président de l'Assemblée nationale, j'ai écrit au Premier ministre pour qu'ils me disent pourquoi ils ne sont pas en train d'appliquer ces recommandations-là. Il y avait encore une autre recommandation pertinente. On demandait le plan de sortie de l'état de siège avant la 10e prorogation. Et vous savez, ces recommandations et résolutions ont été votées par l'Assemblée nationale le 29 septembre 2021. Dès lors qu'une résolution ou une recommandation est votée par l'Assemblée nationale, il n'y a plus d'obstacle, ça devient une contrainte au gouvernement. Mais on a enterré, et ça fait aujourd'hui qu'on est en train de s'embourber, on voit les députés provinciaux justement exprimer leur mécontentement, mais ils ont raison, parce que je venais de le dire, on ne peut pas aller de prorogation à prorogation. Là, je contredis ce qu'a dit mon collègue de Juvenal, c'est anormal d'aller dans une situation exceptionnelle pendant beaucoup de temps, vous allez restreindre toutes les libertés, ce qui n'est pas bon, et vous êtes en train de prendre tous les trois pouvoirs, il n'y aura plus de ces principes de séparation des pouvoirs, parce que le pouvoir est tombé des militaires, et on a vraiment des risques qu'il faut gérer avec l'état de siège. C'est pour cela que le législateur a voulu que ça soit 30 jours, et qu'on ne puisse pas aller au-delà, mais si jamais on trouve qu'il y a des foyers encore, on peut encore prolonger 15 jours, même s'ils n'ont pas été précis pour dire prolonger deux fois, trois fois, mais il ne faut pas que ça prenne du temps, parce que tout change avec cette situation d'exception. Et je voudrais aussi terminer en disant, par exemple, je n'ai pas toujours aimé quand les gens parlent de motions alimentaires. Les députés provinciaux ne revendiquent pas pour venir faire des motions, non. Pourquoi alors ces motions sont dans la disposition réglementaire? Alors il faudrait qu'il n'y ait plus de motions. Parce que les gens, quand on initie une motion, les gens pensent toujours que non, on cherche de l'argent. Non, ce sont des dispositions qui existent. Moi, j'ai initié une pétition contre Mbosso. Et j'ai eu des attaques et des attaques du bureau Mbosso. Mais j'ai toujours dit non, mais c'est un jeu démocratique. Si vous avez des arguments, vous allez contrebalancer pour que vous puissiez avoir raison et que les gens ne votent pas pour vous, pour la pétition, et qu'ils votent contre la pétition. Donc, ce sont des exercices démocratiques qu'on ne devrait pas changer. C'est en cela que je voudrais un peu recadrer les choses.
Bien, merci honorable Gratien Irachan. Je rappelle que vous êtes député national élu de l'Ituri. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, excellente journée à vous et à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bien, nous parlons de l'état des sièges et état d'urgence sécuritaire. Quelle est la différence entre les deux? Il y a deux auditeurs en ligne, Boumediene de Lubumbashi et Héritier de Bounia. Boumediene, bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour aujourd'hui.
On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Moi, je commence par le regret. Parce que j'ai toujours constaté que les Congolais sont pessimistes, en commençant par notre invité, le maître qui est sur le plateau. J'ai toujours admiré la façon de parler des Congolais, mais je regrette l'essence du raisonnement. Il a comparé la situation de l'état de siège avant, 62, 64, je ne sais pas. Mais moi, je lui montre ce que nous vivons maintenant. Avant cet état de siège, on nous avait dit qu'on avait plus de 21 000 militaires à l'Est. C'est un dossier sensible que je n'ai pas voulu intervenir, mais je le fais pour le faire voir. Mais sur le terrain, on a trouvé 9000. Est-ce qu'avec le 9000 et l'étendue de notre territoire à l'est là-bas, est-ce qu'on peut faire quelque chose, puisqu'il faut aller dans le secret de sécurité?
Bien, merci d'avoir appelé Héritier. Vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Je voudrais dire que, bon, l'état de siège, nous ne voyons pas les résultats. Parce que depuis que cet état de siège a été mis en place, toujours les massacres continuent. Alors, on se pose la question. Qu'est-ce qui n'avance pas pour que la paix revienne? Pour que la paix revienne au moment où nous avons décrété l'état de siège. La deuxième question que je voudrais poser, au moment où l'état de siège échouerait, que la faute sera attribuée au chef de l'État ou bien aux militaires. La troisième question, qu'est-ce que le ministre de la Défense est en train de faire pour que...
Désolé, la communication s'est détériore. Maître Rufin-Loukou.
Oui, mais c'est-à-dire, au premier auditeur, nous sommes ravis de son intervention qui dit que nous sommes pessimistes. Nous donnons une analyse ici pour vous permettre de comprendre ce qui se passe. La situation, notamment, qui a perduré à Beni d'abord. C'est vrai, la cire d'immense. Comment je peux appeler ça? Le fait de rajouter le nombre des militaires, alors qu'ils sont autant, on disait qu'ils sont 21 000. Et c'est parmi les raisons qui a fait que notre armée ne puisse pas répondre efficacement. Mamadou Ndal avait un bataillon, et c'était complet, discipliné, et vous savez les résultats. Le nombre surdimensionné des militaires a béni. Personne n'a été sanctionné à Kinshasa. Et c'était des milliers d'argent que les trésors publics engloutissaient dans ces détournements-là. On a également assisté, on a constaté le vieillissement de nos troupes. Non seulement qu'ils sont moins nombreux par rapport aux chiffres qui sont sur le papier, mais c'était des vieux. Et il n'y a d'ailleurs que notre armée ici dans la région, dont nous avons encore des officiers généraux de plus de 70 à 80. Nous devons rajeunir notre armée.
Qui ne vont pas en retraite.
Qui ne vont pas en retraite. Ça veut dire, et des fois qu'on envoie au front des officiers de plus de 60 ans qu'on envoie au front, on les a trouvés au front. Vous voyez? Alors, il faut qu'on puisse renouveler nos troupes. Il faut qu'on renouvelle nos troupes. Et surtout sur cette question-là d'effectifs sur le terrain. La surestimation des effectifs par une boutique qui est organisée en Kinshasa. Certaines officines qui récupèrent l'argent de tous ces militaires qui sont enregistrés sur les effectifs littéraires et qu'en fait ils n'existent pas.
Maître Rufin-Loukou, faut-il garder l'état de siège ou composer, avoir, je ne sais pas moi, l'état de siège
l'état d'urgence en même temps. L'état de siège doit être redéfini. Ça veut dire, on peut le ramener à un état d'urgence ou un état d'exception. C'est toujours le militaire qui va continuer à gérer. Mais...
À co-gérer, et c'est possible de co-gérer avec les civils?
Voilà, dans l'état d'urgence, par exemple, les militaires co-gèrent avec les civils. Ou dans l'état d'exception. Sauf sur les terrains, les fiefs des opérations, là, les militaires sont seuls. Ce sont eux qui font leur loi, là où il y a la localisation de la menace, de l'insécurité, ou du siège qui a porté atteinte soit à nos frontières, soit à la stabilité de nos institutions. Donc, sur cet aspect-là, le militaire gère seul. Mais l'ensemble de la circonscription administrative, eh bien, l'on doit co-gérer avec les militaires. Parce que sinon, ils vont être distrait. C'est pourquoi, vous savez pourquoi on va de prolongation à prolongation? Parce que tout simplement, État submergé par les attributions qui ne sont pas les leurs.
Les affaires coutumières.
Ils se retrouvent maintenant.
Les conflits fonciers.
Ils se retrouvent moins engagés dans ce qu'ils sont venus faire. Et ça, donc, il faut redéfinir. Absolument, il faut redéfinir. Dans la redéfinition, parce que si notre armée échoue, la solution des honorables, c'est la dernière solution, de donner les armes aux civils en les formant, de donner la population elle-même, de garantir la sécurité de leur propre territoire.
Certains
national.
Députés ont demandé cela, mais d'autres ne sont pas d'accord.
Non, ils ne sont pas d'accord, mais en définitive, lorsque notre armée échoue,
quelle est la dernière solution qui reste? C'est le souverain primaire qui se prend en charge. Et le souverain primaire, ça veut dire donner les armes à la population. Tout à les formats. Donc ça veut dire, ça sera la dernière solution. Or, notre armée, j'ai parlé depuis 62 jusqu'aujourd'hui, partout il y a eu état de siège, notre armée n'a jamais échoué. Rappelez-vous que même les rébellions, les forces armées congolaises, les FARDC, ont défait le M23 par un seul bataillon. Ce n'était pas une région militaire, c'est un seul bataillon. Donc c'est moins de mille militaires ont défait des rébellions qui ont fait 2, 3, 4 ans sur le territoire national dans la complaisance générale. Parce que tout simplement, notre armée a toujours mis fin aux insécurités liées à des états d'exception, des états d'urgence ou des menaces de toutes sortes. Vous vous rappellerez que l'insécurité de l'est du pays, c'est parce que tout simplement, la communauté internationale s'est toujours opposée à ce que la RDC, les FARDC puissent s'assumer et affronter les menaces. La communauté internationale s'est toujours opposée.
Ça l'honorable Mounobo a dit tout à l'heure, parmi les recommandations de députés, il faut peut-être revoir la chaîne des commandements, il faut sanctionner.
Mais ça, ce sont des recommandations traditionnelles depuis longtemps.
Il faut donner les moyens aux militaires pour...
Mais on va donner le moyen à quels militaires, à quel nombre de militaires sur le terrain? Parce que depuis tout ce temps, il y a un problème d'effectif. Ça veut dire, là où il y a en fait 1000 personnes sur le terrain, Kinshasa enregistre 10 000 personnes. Donc ce problème-là n'est pas résolu parce qu'on ne sanctionne pas. C'est connu à Kinshasa que les effectifs sur le terrain sont différents des effectifs sur le papier que Kinshasa détient. Alors, il faut qu'on règle ces problèmes-là pour savoir maintenant comment on va armer ceux qui sont effectivement sur le terrain et qui font le travail. Comment on va les nourrir? Comment on va les déplacer? Cette question est importante. C'est pourquoi, avant que l'armée ougandaise puisse être invitée dans notre pays pour faire le deuxième état de siège, il a fallu d'abord évaluer si notre armée a effectivement échoué.
Maître Ruffin Louko, qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir pour terminer?
Les auditeurs peuvent retenir...
Entre l'état de siège et l'état d'urgence sécuritaire.
Les auditeurs peuvent retenir qu'il faut qu'on redéfinisse. Parce que nous sommes en train d'assister à un alignement dans l'état de siège sans résultat palpable. Les CODECO sont partis en puissance depuis tout ce temps. Ils prennent même en otage les envoyés du gouvernement central. Et d'une manière prolongée, et nous ne savons même pas quand est-ce qu'ils vont les libérer. Ça, nous sommes en Ituri. Au Nord Kivu, l'armée ougandaise est là. Quels sont les résultats pour que l'armée ougandaise soit en nécessité de venir intervenir chez nous? Il faut donc qu'on évalue ça, et notre population a droit de le savoir, parce qu'il y a une menace constitutionnelle, ça veut dire les élections. Pour que cet état de siège, cette menace-là, donc l'imminence des élections en 2023, nous sommes en 2022.
Et par rapport aux autorités civiles
qui sont à galère, il faut donc qu'on redéfinisse pour qu'ils reviennent, parce que c'est leur droit constitutionnel. Ces autorités doivent revenir en délimitant non seulement les liens de l'état d'urgence ou de siège, mais aussi en délimitant leur pouvoir pour qu'ils ne soient consacrés essentiellement ou exclusivement à la guerre contre les groupes armés, contre les menaces étrangères, et puis les autorités civiles continuer à s'occuper de tout ce qui est civil,
conflits fonciers,
coutumiers, et consorts. Voilà. Les autorités civiles s'occupent de ça, mais tout ce qui est sécurité, guerre, ça c'est l'armée et la police.
Maître Ruffin Louko Moussoubao, juriste, chercheur en droit et écrivain, merci.
Je vous en prie et merci à tous nos auditeurs.